Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Amen. Alors je rappelle pour nos amis qui sont peut-être de passage ou qui nous rendent visite pour la première fois que nous sommes dans une série de prédications au fil de nos lectures de l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors la semaine dernière, notre frère Fred Perrier, que j'ai aperçu ce matin, nous a parlé de la vie nouvelle en Jésus-Christ et il a résumé en tout cas sa pensée avec cette formule, la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions la vivre. Et ensuite, il nous a entretenus d'un certain nombre d'éléments de l'exhortation de Paul pour vivre cette parole. Alors moi, je reviens un peu en arrière dans ce passage et je rappelle que nous sommes dans la deuxième partie de l'épître de Paul. L'apôtre Paul vient d'exhorter les Éphésiens à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il en vient maintenant au sujet de la diversité des ministères donnés à l'Église. Quelques versets plus haut, il a fait un détour dans l'Ancien Testament en méditant le psaume 68 qui parle du triomphe de l'Éternel sur ses ennemis, qui parle de l'intronisation d'un roi messianique. Et l'apôtre Paul a la conviction que ce psaume 68, c'est le Christ qui l'a accompli parfaitement et définitivement, puisqu'il est celui qui a vaincu par la croix ses ennemis, qui a remporté ce triomphe, et qui a été élevé au-dessus de toute autorité dans les lieux célestes. Et il ajoute au verset 10, « afin de remplir tout l'univers. » Jésus-Christ, mort, ressuscité, a été élevé dans les lieux célestes afin de remplir tout l'univers. Mais ce qui est encore inouï, c'est comment est-ce qu'il va remplir tout l'univers. Nous ne voyons pas encore que tout l'univers, que toute chose lui soit soumise. Nous ne le voyons pas encore, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et pourtant, l'histoire progresse. Et l'apôtre Paul semble nous dire que c'est par le moyen de l'Église. C'est par le moyen de vous et moi. C'est par le moyen de l'Église. L'Église, rendez-vous compte, tout l'univers, un enjeu, un projet, un destin qui concerne tout l'univers. Je veux que nous mesurons ça. Tout l'univers, visible et invisible. Dieu choisit un moyen apparemment fou. Il choisit de remplir l'univers par le moyen de l'Église, à travers laquelle il fait connaître au monde, aux autorités dans le monde visible et invisible, la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh ! Quand je me regarde, quand je sais tout le boulot qu'il y a encore à faire dans l'homme que je suis, dans le mari que je suis, dans le père que je suis, dans le frère que je suis. Waouh! Malgré tout ça, il veut faire de chacun de nous en tant qu'Église collectivement, le moyen par lequel il remplit tout l'univers. Waouh! Frères et sœurs, arrêtons-nous là quelques instants pour méditer ça. Qu'est-ce que ça change dans ma manière de voir l'Église? Waouh! Des hommes et des femmes que le monde mépriserait presque. L'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il disait, mais regardez-vous, il n'y a même pas parmi vous des gens qui pèsent dans la société. C'est ce qu'il leur disait à eux. Et quand bien même il y aurait parmi nous des gens qui pèsent dans la société, ce n'est pas notre statut social qui va remplir l'univers, qui va faire connaître au monde l'extraordinaire plan de Dieu pour tout l'univers. Et nous avons déjà vu que le projet de Dieu, dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, c'était de récapituler toutes choses et de les mettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Et maintenant, non seulement il nous dit que ce Jésus-Christ est monté dans les lieux célestes, est assis sur le trône, dont c'est lui qui est l'autorité Seigneur au-dessus de tout, mais il dit que la façon dont cette vérité spirituelle va se faire connaître de manière évidente dans tout l'univers, c'est par le moyen de l'Église. Waouh! Si tu es là, tu es à la bonne place alors. Si tu es là, tu es à la bonne place. Dieu te dit que tu comptes dans son projet. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu dire qu'il allait manifester sa sagesse infiniment variée par les anges et les archanges. N'a-t-il pas souvent envoyé des anges parler aux hommes, aux femmes? Bientôt c'est Noël, j'espère qu'on revisitera certains textes de Noël. On verra le rôle des anges dans la parole de Dieu. Mais il a choisi vous et moi pour remplir l'univers de sa gloire. Ça nous dépasse, ça nous dépasse. Et concrètement, comment il va s'y prendre? Eh bien, il va s'y prendre en donnant à l'Église des hommes, des femmes, des personnes avec des dons pour équiper le peuple de Dieu afin que, comme nous l'avons lu, tous et chacun soient rendus aptes. Aptes à remplir son rôle. Waouh! Je prie vraiment pour que ma vie, nos vies, soient à 100%, à 100% rendues aptes pour l'œuvre que le Christ donne à son Église. Alors, ces hommes, ces femmes, ces personnes, l'apôtre Paul dit qu'elles ont reçu, l'apôtre Paul les appelle des ministres en vue d'un ministère. Et ici, il nous en donne une énumération. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. J'aimerais faire deux remarques générales. Regardez-moi, ça ne va pas s'afficher. Je connais, c'est moi qui l'ai fait. Alors, ce n'est pas très bien fait, mais c'est moi qui l'ai fait quand même, j'assume. D'abord, c'est que l'énumération que l'apôtre Paul fait ici n'est pas exhaustive. Paul énumère une diversité de ministères. Certains parlent des cinq ministères. Il y a même un courant qui pense qu'une église qui n'aurait pas ces cinq ministères, quelque part, est dysfonctionnelle ou serait dysfonctionnelle. On va y revenir. Ce que je voudrais juste souligner, c'est qu'il est important de remarquer que cette liste n'est pas exhaustive. Et d'ailleurs, il suffit de considérer Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens 12 que nous ne lirons pas. Je vous renvoie juste à noter ces passages et à les lire peut-être à la maison, cet après-midi ou dans la semaine. Il suffit d'ouvrir ces autres textes pour voir que l'apôtre Paul a connaissance d'une diversité plus grande de charismes et de ministères. Si on considérait que ces cinq ministères comme étant tous les ministères, Alors vous aurez remarqué rapidement qu'il manquerait par exemple le ministère des diacres, qui est pourtant connu de l'Écriture. Le ministère des anciens, qui est pourtant connu de l'Écriture. Et on pourrait encore citer d'autres ministères. Donc la liste n'est pas exhaustive. Deuxième remarque générale, tous ces ministères que l'apôtre Paul cite ont en commun, le plus petit dénominateur commun pourrions-nous dire, c'est la transmission de la parole de Jésus-Christ. Tous ces ministères ont quelque chose à voir avec la communication de la parole du Christ et tous concourent à une même finalité. J'en ai déjà dit quelques mots, à savoir équiper chacun de nous pour que nous soyons aptes au service que le Seigneur nous confie. Alors, considérons-les maintenant, j'ai envie de dire, distinctement pour qui ils sont. Commençons par apôtres et prophètes. Paul associe souvent le ministère d'apôtre et le ministère de prophète. Il le fait ici dans l'Épître aux Éphésiens, dans deux passages. Nous pouvons voir qu'il le fait en Éphésiens chapitre 2, verset 20, au tout début donc de sa lettre, dans la première partie. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Éphésiens chapitre 3, verset 5, parlant du mystère caché qui a été révélé enfin, « Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. » La question s'est alors posée de savoir s'il y avait ici une seule catégorie ou deux catégories de ministères. Est-ce que les apôtres sont les prophètes ou est-ce qu'il faut entendre les apôtres d'un côté, les prophètes de l'autre côté? Vous êtes toujours avec moi? Oula, je sens que vous commencez à lâcher ma main. Come back. Reviens, reviens. Ça vous semble loin, hein? Oui, parfois la parole de Dieu est un peu dépaysante. On aime que ça me parle ici et maintenant, tout de suite. Mais non. Ça a été écrit déjà il y a 2000 ans. Donc parfois c'est un peu plus distant. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, finalement, quelle que soit l'option qu'on va prendre, si on revient au chapitre 4 d'Éphésiens qui nous intéresse, on va remarquer que là, dans ce chapitre 4, l'apôtre Paul ne dit pas « apôtre et prophète ». Donc, il ne fait pas ce lien, il semble vouloir un peu distinguer ces deux offices. Apôtre, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme. Donc, les deux options peuvent s'entendre, peuvent se défendre. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la fonction même d'apôtre et la fonction du prophète, leur rôle. Alors, apôtre, vous le savez, peut-être, vient du verbe grec apostello, qui signifie envoyer. Donc, au sens étymologique du terme, l'apôtre, c'est celui qui est d'abord envoyé. Il y a donc, dans la notion d'apôtre, l'idée de la délégation, d'une délégation d'autorité. Ce n'est pas juste un envoyé quelconque. C'est en quelque sorte l'équivalent de l'ambassadeur aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un ministre avec des compétences plénipotentiaires. Il représente pleinement le pouvoir, l'autorité de celui qui l'a envoyé. Tant et si bien d'ailleurs que lorsque l'ambassade ou l'ambassadeur de France à l'étranger est menacé ou est sommé de quitter un pays, ça s'est passé récemment au Mali, sans politique, quel que soit par ailleurs ce que vous en pensez, ce que je veux juste souligner, c'est que vous avez bien entendu que ce n'est pas lui qui s'est défendu lui-même, mais c'est le chef de l'État qui est monté au créneau et qui a dit que c'est la France. C'était la France là-bas, au sens de la représentation. Apôtre envoyé avec la délégation d'autorité. Et donc c'est très intéressant parce qu'on va questionner cette autorité, le niveau de cette autorité. Cette autorité peut être entendue avec un niveau maximum, une autorité entière. Quand l'apôtre Paul parle, l'autorité de sa parole est pleine. Elle est parole de Dieu. Parole de Dieu, avec autorité et force. Est-ce que quand moi je parle, ma parole pourrait avoir la même autorité? Il est évident que non. On va comprendre. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre cette notion de degré d'autorité différent. L'apôtre est aussi un ambassadeur. L'apôtre Paul l'a dit, il a d'ailleurs utilisé le terme « nous faisons office d'ambassadeur ». Il est envoyé, il est l'ambassadeur du Christ. Et donc, s'il est l'ambassadeur du Christ au sens fort, il a reçu la délégation et l'autorité du Christ. C'est l'être de créance, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas un homme qui la lui donne. C'est le Christ lui-même qui l'a accrédité, qui l'a nommé, qui l'a établi. Et c'est pourquoi Paul aime souvent rappeler Paul, apôtre de Jésus-Christ, conformément à la volonté de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait bien besoin de rappeler souvent que c'est conformément à la volonté de Jésus-Christ. Parce que quand on regarde précisément l'usage du Nouveau Testament, on se rend compte que le titre d'apôtre est employé au sens fort, c'est-à-dire avec la plus forte autorité, pour désigner le groupe des 12. Alors, moins Judas, bien entendu, mais vous savez qu'il y a eu un vote au tout début de l'Église pour remplacer Judas. Et l'un des critères que les apôtres avaient mis en place, c'était des personnes qui avaient marché avec eux du vivant de Jésus, qui avaient connu Jésus vivant et qui étaient témoins. Et pas peur, hein, ce sont les enfants qui manifestent leur... Ils se rappellent à nous. Et qui était témoin de sa mort et de sa résurrection. Et l'apôtre Paul s'ajoute à ce groupe et se décrit comme un peu un avorton ou le plus petit, le moindre d'entre eux. Parce qu'il n'a pas cheminé pendant 3 ans avec le Christ, mais nous le savons, le Christ lui est apparu sur le chemin de Damas. Et il a reçu du Christ ressuscité ses lettres de créance. Donc, au sens fort, le titre d'apôtre appartient à ce groupe-là et à ces témoins-là. Mais on peut également observer que d'autres personnes sont appelées apôtres dans l'Écriture. C'est le cas de Barnabas, qui était le binôme de Paul. Sans Barnabas, peut-être l'Église serait passée à côté de Paul. Parce que Barnabas, c'est celui qui allait chercher Paul. Barnabas, c'est celui qui a encouragé Paul. Paul était converti, mais les chrétiens avaient peur de lui. Ils ne lui faisaient pas confiance, et on peut les comprendre. Ils se disent, mince, ce revirement, il a changé de veste ou il s'est vraiment converti? Il a changé de côté sa veste ou il s'est converti vraiment? Et Barnabas a dit, non, je vois le Christ en lui. Je vois l'œuvre du Christ dans son cœur. Il allait chercher Paul, et Barnabas a reconnu. Au début, quand vous lisez le livre des Actes, vous entendez Barnabas et Paul, Barnabas et Paul. Et à un moment donné, Paul et Barnabas. Barnabas reconnaît Paul comme l'apôtre au sens fort. Mais Barnabas est appelé apôtre dans un sens un peu plus relatif, me semble-t-il. Mais il n'y a pas que Barnabas qui est appelé apôtre. Il y a un couple dont il est question à la fin de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 17. Dans ses salutations, il mentionne Andronicus et Junia. Il dit qu'ils sont apôtres parmi nous. Sans doute un couple, Andronicus et Junia. Junia qu'on a essayé de masculiniser plus tard. Mais vous avez compris d'où je prends le nom de ma dernière fille avec Nadia. Et si donc l'apôtre Paul associe une femme au titre d'apôtre, reconnaissez qu'il y a là, dans le contexte historique, quelque chose d'énorme. Vous aviez déjà repéré ça? Junia et Andronicus, estimés parmi les apôtres, dit l'apôtre Paul. Waouh! Cela peut-être nous autorise à dire ce matin que le Seigneur donne également aux femmes un ministère comme nous l'avons dit, en lien avec la parole. Je ne crois pas un seul instant que Junia se taisait et disait à Andronicus, il n'y a que toi qui peux parler, qui peux l'ouvrir. Ce serait facile de voir que l'apôtre Paul donne la parole, comme Jésus l'a fait à plusieurs femmes au cours de son ministère. Alors je referme ici ce qui n'était pas tout à fait une parenthèse, mais je ne vais pas me laisser déporter par rapport à... Je regarde la montre. Nous avons donc les apôtres au sens fort. Nous avons donc quelques personnes, un infime nombre, qui sont appelés apôtres également dans l'Écriture. Et puis après, fait remarquable de l'histoire de l'Église, le mot n'est plus utilisé après la génération des apôtres. On ne trouve plus. Plus personne ne reprend le mot apôtre pour l'attribuer à un ministère. Même dans un texte comme la Didaké, qui en date du 1er siècle, on ne retrouve qu'une seule mention d'apôtre en dehors du groupe des apôtres bibliques. Et c'est pour se dire de se méfier de ces prédicateurs itinérants, de ces délégués qui sont en représentation par eux-mêmes et en rupture avec l'Église d'une certaine façon. Et ce n'est pas un hasard si même l'Église, dans son développement, elle a été d'abord catholique romaine, avant la Réforme, n'a pas désigné ses autorités ecclésiastiques par le titre d'apôtre, mais d'évêque, qui va être le terme qui sera repris plus tard, évêque, presbytre, ancien. Alors ça nous pose la question de l'usage contemporain du titre d'apôtre. Je ne nie pas qu'on a des églises qui sont dites apostoliques, avec des personnes qui ont un ministère dit apostolique. Il me semble, en étant prudent, que cela ne... Comment dire ? En tout cas, je voudrais nous rendre attentifs au degré important de nuance qu'il faut avoir. Aujourd'hui, je rencontre des personnes qui sont apôtres parce qu'elles sont dirigeants de 2, de 3, de 4, d'un groupe d'église. Mais il faut bien entendre que c'est un usage contemporain du mot et de la fonction auquel il ne faut pas conférer, mais pas du tout, et ça je veux le dire très fermement, le même degré d'autorité que lorsque la Bible nous parle des apôtres dans le Nouveau Testament. Parce que pour tous ces dirigeants qu'on appelle apôtres aujourd'hui, eh bien leur parole et leur autorité est toujours à relativiser d'un point de vue biblique. Ils ne peuvent pas s'exprimer avec la même autorité qu'avait l'apôtre Paul. C'est important, mes amis, d'avoir ce repère pour ne pas amalgamer. Et donc, si j'avais une critique à faire, ce n'est pas le fait simplement d'utiliser le terme. C'est que le terme risque d'introduire des mécompréhensions. C'est la raison pour laquelle je suis favorable davantage à ne pas parler d'apôtre, mais à utiliser les termes que le Nouveau Testament nous donne, qui sont encore là, évêque, ancien, presbytre. Mais dans un sens très large, on pourrait dire alors, si on revendique l'utilisation du mot apôtre, cette fois-ci on ne peut pas le revendiquer pour quelques-uns seulement. On peut le revendiquer de tous les chrétiens, puisque nous sommes tous envoyés. Nous sommes tous envoyés. Allez, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Dans ce sens très large, voyez-vous, nous sommes envoyés. Mais lorsqu'on dit, en tout cas dans l'histoire de l'Église et en théologie biblique et ecclésiale, que l'Église est apostolique, ça veut dire que l'Église repose sur le fondement de la parole donnée par les apôtres. Et que je sache, le canon est clos. Le canon est clos. Le canon est clos. C'est en ce sens qu'elle est apostolique, premièrement. Elle est apostolique, deuxièmement, parce qu'elle est envoyée vers le monde. Mais les titres spécifiques, pour quelques-uns, il me semble que nous devons être prudents. Alors, deuxièmement, prophète, ouïe, aïe, aïe, aïe. Du point de vue biblique, le prophète est avant tout celui qui reçoit et transmet la parole de Dieu au peuple. En fait, le prophète dans la Bible est davantage un porte-parole de Dieu. Là encore, permettez-moi une analogie contemporaine. Vous savez, quand il y a des réunions toutes les semaines à l'Élysée, pour informer les Français d'un peu de ce qui s'est dit, vous allez voir M. Véran arriver devant le micro, vous allez voir le titre « Porte-parole du gouvernement ». Il porte la parole du gouvernement. Jusque-là, l'analogie, le contenu ne m'intéresse pas. Je ne le dis pas par mépris, mais parce que mon rôle n'est pas d'entrer dans la politique. Je voudrais juste illustrer pour qu'on comprenne que ça correspond à une réalité qu'on peut identifier. En fait, le prophète, c'est au sens fort, le prophète biblique, au sens fort, celui qui pouvait se lever au milieu du peuple comme Ésaïe et éclairer la situation du peuple en disant « Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. » Je voudrais vous en dire quelques mots, mes amis. J'ai grandi spirituellement aussi dans un milieu où parfois certains se levaient et disaient « Ainsi parle le Seigneur. » Je dois vous avouer par honnêteté que souvent j'en ai eu peur. Intuitivement, avant toute théologie, souvent j'en ai eu peur. Et d'ailleurs, les dérives n'ont pas manqué. Je me souviens d'avoir prié avec une sœur qui me disait que le Seigneur lui a dit que tel frère serait son mari. Et au moment où elle me disait ça, je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte que ce frère est marié déjà? Elle m'a dit, oui, je sais, mais il est dans la désobéissance. Elle m'a dit, je crois que le Seigneur, un jour, va lui parler. Je lui ai dit, mais ma sœur, comme on dit chez nous au Cameroun, ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Donc, tu vas souhaiter que ce couple se casse la figure pour que toi, tu prennes le mari d'autrui. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la magie noire, si vous voulez. Mais il y a la magie blanche aussi. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas possible. Oui, oui, je sais. Ça ne paraît pas comme ça, je sais. Revenons à l'essentiel. Oublions la magie noire. Je vais dire que c'est dangereux. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment prendre le temps d'insister ce matin sur le fait que cette manière de s'exprimer a été donnée au prophète canonique, au prophète biblique. Une fois que j'ai dit ceci, il faut également voir que l'office de prophète est étendu à tout le peuple de Dieu. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à la Pentecôte? Et l'apôtre Pierre se lève, il dit que c'est là l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait annoncé. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et quel était le contenu de leur prophétie? D'ailleurs, en des langues diverses, on ne nous donne pas le détail, on nous dit seulement comment se fait-il que nous les entendons parler des merveilles de Dieu? Le prophète n'est pas un devin. Il n'est pas celui qui est là pour qu'on vienne consulter pour vous dire ce qui va arriver d'abord demain. Ce n'est pas son premier rôle. D'ailleurs, la Bible est très méfiante en matière de divination. Et elle, plus que méfiante, elle condamne ceux qui ont recours à la divination. Elle condamne ceux qui vont consulter, ceux qui convoquent l'esprit des morts. Elle condamne ceux qui vont faire lire sur leurs mains leur avenir. Elle condamne ceux qui veulent tirer les cartes. Elle condamne ces pratiques. Et là, ce n'est pas la magie noire, ça c'est la magie blanche. Parce qu'il y a beaucoup ça ici. Beaucoup. Je l'ai tellement vu, y compris parfois parmi des chrétiens désespérés en Église. Soyons clairs, la Bible ne nous encourage pas dans cette voie. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de prophètes? L'apôtre Paul ne va pas jusque-là. Je nous fais remarquer qu'il y a bien des prophètes qui sont donnés à l'Église. Mais ce sont des hommes et des femmes dont le rôle est d'interpréter, de comprendre la situation à partir de la parole de Dieu donnée par les prophètes bibliques et les apôtres et de l'appliquer à l'Église tellement à propos que l'Église elle-même reconnaît ici la parole de Dieu. Donc ce sont des prophètes ecclésiaux, c'est en église. Leur statut n'a rien à voir de manière rigoureuse avec les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, ni avec l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul ne méprise pas la prophétie puisqu'il considère que l'Esprit de Dieu donne le charisme prophétique. L'Église a besoin des charismes prophétiques. Ça fait partie de ce que Dieu veut nous donner. Romains 12, 1 Corinthiens 12 est clair. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 l'est encore. Et 1 Corinthiens 14 l'est encore. Mais la façon dont Paul parle de la prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 14, par rapport par exemple à la glossolalie, ce qu'on appelle le parler en langue, nous invite à rechercher la prophétie non pas comme phénomène statique, en transe, quelque chose qui nous secoue, qui nous dépasse, mais comme capacité à dire la parole de Dieu de manière intelligente, de manière intelligible, de manière persuasive. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la prophétie en 1 Corinthiens chapitre 14. Je nous invite à relire ce texte. Et il considère que ce type de parole, elle est bonne pour tout le monde dans l'Église, y compris pour des personnes non-croyantes qui viendraient en l'Église. Et c'est pourquoi il lui donne l'avantage sur la glossolalie, qu'il ne condamne pas non plus. Il dit « Je connais un homme ». Et il parle de lui modestement. Et il développe, mais il dit « J'aime mieux dire quelques paroles intelligibles pour édifier quelques-uns, plutôt que beaucoup, beaucoup de paroles en langue des anges qui n'édifient pas la communauté ». Il ne dit pas de ne pas vivre cette vie de l'esprit, mais il dit que dans le culte public, que nous donnions des paroles intelligibles, par exemple. Alors, si je lis bien l'apôtre Paul, il considère qu'il ne faut pas mépriser la prophétie, mais à chaque fois, il nous dit que nous devions avoir un discernement critique de la prophétie. 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21. « Ne méprisez pas les prophéties ». Mais en toute chose, examinez, c'est le verbe critiquer, diakrinein, peser, analyser, pas pour écarter tout, pour retenir ce qui est bon. L'apôtre Paul ne parle jamais ainsi de la parole des prophètes de l'Ancien Testament. Il ne parle jamais ainsi de sa propre parole. Il ne parle jamais ainsi de la parole de Pierre. Parce qu'il sait que pour les prophètes et les apôtres bibliques et les prophètes canoniques, il le dit très bien, car ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils ont parlé, mais toute parole a été inspirée de Dieu. Nos prophéties, à nous, sous l'inspiration de l'Esprit, restent, à cause, pas de l'Esprit, mais à cause du récepteur, nous-mêmes, quelque chose qu'il faut interpréter et prendre la distance. Et l'apôtre Paul nous donne un exemple. Et je vais finir sur ce point avec cet exemple. Acte chapitre 21, on nous parle d'un certain Agabus. Agabus était un prophète qui avait annoncé, par exemple, la famine qui a touché Jérusalem. Mais Agabus vient avec, il avait quatre filles qui étaient également prophétesses dans l'église. Donc la Bible nous donne la trace des prophètes dans l'église. Dans l'église d'Antioche, acte chapitre 13, il y avait des prophètes et des docteurs, etc. Mais Agabus annonce à Paul qu'il a reçu par le Saint-Esprit que s'il monte à Jérusalem, il va être arrêté, persécuté, etc. Or, Paul au chapitre 20 avait reçu par le même esprit la conviction en son fort intérieur qu'il devait monter à Jérusalem. Ça pose un problème délicat aux interprètes de la Bible. Agabus s'est-il trompé ou pas? Alors, certains considèrent qu'Agabus s'est trompé et ce n'est pas choquant parce que la prophétie d'Agabus n'a pas le même statut que la parole de Paul. Si nous disons que Agabus ne s'est pas trompé et que sa prophétie a la même autorité que la parole de Paul, alors reconnaissons que Paul a désobéi parce qu'il est monté à Jérusalem. Et c'est quand même drôlement problématique d'oser affirmer que Paul aurait désobéi en conscience à une parole qui lui a été donnée de la part du Seigneur. Une contradiction terrible. Or, on peut comprendre autrement ce problème. On peut comprendre que Agabus, ayant justement reçu que Paul devait monter à Jérusalem, ayant reçu que Paul y souffrirait, ça c'est vrai, et Paul aussi avait reçu qu'il allait monter à Jérusalem, et il ne s'attendait pas à être mieux traité que son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc une part de ce que Agabus a dit relève de ce que l'Esprit avait dit au chapitre 20 à Paul. Mais on peut considérer que par un excès d'amour fraternel et de prévenance, il dit à Paul, n'y va pas. Mais est-ce que là, c'est encore le Seigneur qui lui dit, n'y va pas? Est-ce que vous-même, vous ne me direz pas, pasteur Paul, franchement, là, on comprend ton cœur pour évangéliser, mais là, ça nous fait peur. On n'est pas prêt à te suivre à Pissevin tout de suite. Pasteur Paul, vraiment, n'y va pas, même si on peut comprendre que le Seigneur peut te dire qu'on y aille. Par amour fraternel, dit pasteur Paul, qu'est-ce que tu vas t'en prendre? Et nous aussi. Pourtant, je lui ai dit, mais est-ce que le Seigneur veut qu'on leur annonce l'évangile? Mais oui, ce n'est pas ça dont il est, qui est remis en question. Mais allons, est-ce qu'il veut qu'on leur annonce à eux aussi à Pissevin? Mais oui, mais bien sûr. Mais alors, allons-y. Non, pasteur Paul, c'est un peu too much. D'abord, on doit être formé pendant 3 ans. En plus, on doit se préparer si des fois, ils nous repèrent et qu'ils viennent commencer à casser nos vitres et à mettre le feu. Ça peut, voilà, je ne vais pas stigmatiser hein, ce quartier, mais c'est un peu les représentations qu'on a. Donc ici, on en arrive donc à cette attitude qui me semble équilibrée. Oui, la prophétie fait partie de la vie de l'esprit. Oui, le Seigneur nous appelle d'une certaine manière tous à être capables de prophétie au sens d'être porte-parole, au sens de connaître sa parole, de pouvoir l'annoncer, de pouvoir discerner dans une situation. Mais l'apôtre Paul dit, tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse c'est non. Donc cela n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas le signe d'une plus grande spiritualité, puisque c'est l'Esprit Saint qui dispense selon son libre vouloir. Troisièmement, évangélistes, et là je vais accélérer. Ce sont ceux qui, à la suite des apôtres, proclame la parole là où elle n'a pas encore été annoncée. Ça, c'est la première chose qu'on voit. On voit Philippe aller annoncer la parole sur un chemin désert où il y a le nique éthiopien. Mais il est conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit dit à Philippe, lève-toi et prends le chemin. Il descend de Jérusalem à Gaza. Waouh! Je ne vais pas développer, ça nous amènerait trop loin. Il y a un chemin d'espérance, les amis. L'Église aujourd'hui peut prendre le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et peut-être seule elle peut faire cette œuvre. Parce que là où elle passe, elle annonce un évangile qui libère les haines. Parce que là où elle passe, elle annonce un Messie qui réconcilie l'humanité. Et là, il va trouver un Africain, le nuque éthiopien. Vous voyez comment l'évangile est incroyable. Et Philippe fait cette proclamation qui est un enseignement même. Il baptise l'eunuque éthiopien et il repart et l'évangile traverse les frontières. Amen. Le mot est rarement utilisé. Une seule fois, il est utilisé ici au pluriel dans notre texte. Et on parle encore de ce Philippe l'évangéliste. Dans le même chapitre 21 du livre des Actes dont je vous ai parlé au verset 8, on dit de ce Philippe l'évangéliste qu'il avait 4 filles qui étaient prophétesses, précisément au verset 9 de ce chapitre. Mais on a souvent l'idée que le ministère d'évangéliste est uniquement orienté vers l'extérieur. Pour les Français, l'évangéliste, c'est Billy Graham, quoi. C'est vers l'extérieur. Mes amis, je voudrais nous dire que c'est une image qui est pas totalement, qui ne restitue pas totalement le travail de l'évangéliste. L'évangéliste peut aussi être dans l'Église. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste? Or, l'œuvre d'un évangéliste que Timothée est appelé à faire, il est appelé à le faire dans une église locale. Et faire l'œuvre d'un évangéliste pour Timothée signifiait prêche la parole de Dieu, encore et encore. De manière large, l'évangélisation n'est pas la mission de quelques-uns seulement, mais la mission de tous, même si certains ont reçu le charisme spécifique, indéniablement. Mais ne sommes-nous pas tous appelés à être ses témoins? Ne sommes-nous pas tous appelés à aller de notre Jérusalem vers les périphéries? Enfin, pasteur et docteur. Alors, pour certains, la même question que celle que j'ai soulevée au départ se pose. Faut-il y voir un groupe ou 2 groupes? J'ai envie de dire, peu importe. Ce qui nous importe ici, c'est de souligner la fonction qui est évoquée. Le pasteur, c'est le mot grec et même le verbe grec qui est utilisé, parle de prendre soin d'un troupeau, vous le savez. Le pasteur est celui à qui Dieu confie un troupeau pour le conduire. Et la parole de Dieu est parfois très critique à l'égard des pasteurs. Souvenez dans l'Ancien Testament. Ces pasteurs, au lieu de conduire le troupeau, se sont engraissés sur le dos du troupeau. Au lieu de le servir, se sont servis eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus va reprendre l'image du pasteur, dans Jean chapitre 10, il va dire « Moi, je suis le bon berger. » Parce que pendant trop longtemps, le peuple a eu des mauvais bergers. Des bergers qui ont été dans l'abus spirituel. Des bergers qui ont été dans les abus en tout genre. Et Jésus dit « Je suis le bon berger. » Dans un texte même de Pierre, il nous a dit qu'il est l'archi-berger. Il est le grand berger, en hébreu plutôt, hébreu chapitre 3. Alors, ça met la barre haute pour ceux qui ont un cœur pastoral. Parce que le véritable berger, le véritable modèle, c'est pas moi, c'est pas nous, pasteur, c'est le Christ. Et en fait, quelqu'un a dit que notre travail, c'est être des chiens de berger. Essayer d'être derrière le troupeau, de mordiller un peu, d'aiguiller un peu pour renvoyer les brebis, des fois un peu rebroussière là, hein, vers le bon berger. Mais cette fonction de berger, mentionnée donc aussi dans l'église d'Antioche, acte chapitre 13, est souvent associée à la fonction d'enseignement. D'ailleurs, les bergers sont aussi des enseignants. C'est pourquoi certains groupes maintiennent que c'est pasteurs qui sont aussi des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. L'un des critères constants dans le Nouveau Testament, quand on parle des responsables de l'Église, des anciens et des évêques, on dit qu'ils soient capables d'enseigner, capables de transmettre la parole de Dieu de manière appropriée et adaptée. Jésus est le grand berger et Jésus est le maître par excellence, l'enseignant par excellence. Docteur, s'il vous plaît. La slide suit docteur, merci. Alors l'Église a eu des docteurs, Paul est appelé docteur des nations. Mais plus que tous, Apollos est appelé aussi docteur. Il a eu un ministère d'enseignement. Mais plus que tous, c'est le Christ qui était reconnu comme maître. Sa parole frappait par sa justesse. Sa parole frappait par sa profondeur. Il arrivait à rendre simples les choses complexes. Un grand défi que je ne relève pas toujours, n'est-ce pas? Paul, docteur des nations, mais Christ, docteur de l'Église. Et docteur au-dessus de tous les docteurs. Et c'est lui que nous devons écouter. Alors mes amis, j'ai terminé mon parcours. Je voudrais juste vous laisser deux ouvertures de réflexion. On pourrait ressortir ce matin en se disant, ben, c'est bien, il nous a parlé du ministère des autres. Non. Le ministère de quelques-uns est important pour structurer l'Église, est important pour équiper l'ensemble du corps. Mais chaque membre du corps a reçu un don, au moins un don. Et je voudrais vraiment que nous puissions accueillir cette vérité biblique. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, chacun, Dieu a pensé à chacun, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Cette vérité est toujours d'actualité pour toi, mon frère et ma sœur. Cela signifie qu'au sein de l'Église de Jésus, aucun membre du corps ne peut se dire inutile ou ne peut être vu comme inutile. Chacun est comme une note dont la sonorité manquerait à l'harmonie de l'ensemble. Nous avons une partition à jouer et chacun compte. Chaque note compte. Chaque couleur compte. Les listes des dons et des ministères dont nous parle l'Écriture ne sont pas définitives, je l'ai dit. Et aujourd'hui, il me semble que l'Église est toujours appelée à aider les membres, à aider ceux qui cheminent en son sein, à discerner leurs dons et à trouver leur juste place en vue du service. Et pourquoi? Afin que le corps, Église, grandisse harmonieusement, afin que chacun soit tiré toujours vers le haut. Et qui est en haut? Qui est la tête de l'Église? C'est Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit que afin que nous devenions à la stature parfaite du Christ, alignés, Le cou est aligné avec la tête et quelqu'un m'a dit à un moment donné que c'est le cou qui tourne la tête, mais vous ne pouvez pas faire ça avec Jésus. Peut-être avec votre mari ou votre femme, mais pas avec Jésus, ça ne marche pas. C'est lui la tête qui dirige tout le corps. Tout le corps. Alors ça, c'est un autre sujet. Comment aider les chrétiens à discerner leurs dons? Comment discerner les nouveaux ministères pertinents pour notre époque? Comment équiper ceux qui vont les exercer? On en parlera dans une autre prédication, sans doute l'année prochaine. Mais en attendant, ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les ministères qu'il a suscités dans son Église. Et Dieu a suscité beaucoup de ministères dans notre Église locale, qui sont là pleinement actifs. On l'a encore vu hier et on le voit tout au long de ce qu'on vit dans la semaine. Et c'est maintenant le temps, je vais laisser la parole au président, où nous voulons aussi, je le dis à mon nom propre déjà, rendre grâce à Dieu pour le ministère qu'il a donné à Joy et à son regretté époux André, qui fut un pasteur très apprécié au milieu de nous. Il a donné des hommes et des femmes à son Église. Et pour certains, il les a appelés à aller dans d'autres pays, comme moi, comme Joy. Et il est juste et bon de reconnaître la beauté du don, de se réjouir, comme nous allons le faire, et d'envoyer encore vers les nations, comme missionnaires, ce que Dieu nous a donné.